Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h évidemment, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis bien accompagnée, on est bien accompagnée aujourd'hui. Hein. C'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'hygiène bucco-dentaire des plus jeunes, des enfants. Comment bien se brosser les dents? À partir de quel âge d'ailleurs est-il vraiment important de le faire? Quelle est la bonne technique en fonction de l'âge des enfants? Et oui, il faut leur apprendre ce geste très tôt puisqu'il va les suivre toute leur vie. Alors pour nous expliquer tout cela et nous donner encore plein d'autres conseils, pour avoir des dents saines dès le plus jeune âge, nous recevrons le docteur Noémie Schlossenberg. Elle est chirurgien-dentiste dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. À quelques jours de la Saint-Valentin, le docteur Jimmy Mohamed voulait nous parler d'amour. Et oui, sous le stéthoscope, il y a un cœur qui bat. Bref, une chronique amoureuse
et médicale.
Bah écoutez, je l'ignorais, je suis ravie. Je découvre des facettes de vous tous les jours, c'est génial. Bon, je vous en dis pas plus, on verra ce qu'il va nous raconter. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Elle nous parle d'amour souvent, mais aujourd'hui, elle évoquera ces concessions qu'il faut parfois faire sur ses grands projets de vie au début d'une relation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question d'Alexis, écoutons-la.
Salut Mélanie, salut Jimmy, j'ai une question pour vous. J'ai entendu une experte qui disait qu'il fallait plus manger le soir, alors que j'avais toujours compris que le soir on ne devait pas beaucoup manger. Du coup on peut manger tout ce qu'on veut le soir. Merci à vous et bonne émission.
Merci beaucoup Alexis pour votre question. Alors pour vous répondre de façon précise, nous avons justement rappelé celle qui avait évoqué ça sur notre antenne il y a quelques semaines, c'est Kaina Oussedik, elle est docteure en biochimie alimentaire, on l'écoute.
Alors il faut savoir que le rythme de Cro-Magnon était plutôt ce rythme-là, c'est-à-dire il se réveillait le matin, il mangeait à peine quelques baies et le reste, bah, c'était le repas principal le soir. Donc il était beaucoup plus actif que nous la journée, donc il n'avait pas le temps de manger et c'était pas une priorité. Malheureusement, entre-temps, on a changé notre manière de se nourrir et on a plutôt inversé ce cycle qui était naturel. À mon sens, on peut revenir vers ce cycle, mais attention, à condition de savoir combiner et choisir ces bons aliments que l'on peut manger le soir. On pourrait passer sur tout ce qu'on appelle les filandreux, donc des légumes comme les haricots verts, les fenouilles, les endives, ou des légumes qui fermentent comme la famille des choux, manger ça avec soit un petit poisson ou manger ça avec une petite omelette ou même juste avec un morceau de fromage. Voilà, on peut manger ça une quantité assez raisonnable et d'ailleurs comme ça on pourrait encore mieux dormir. Car certaines personnes dorment mal, c'est parce qu'elles ne mangent pratiquement pas au dîner.
Ça risque pas de vous arriver Jimmy, au moins. Vous dormez bien parce que vous mangez bien.
C'est vrai, je dors comme un roi.
C'est ça. Mais non, mais vous avez la bonne santé, c'est bien. Alors c'était donc le docteur Oussedik au micro de Benjamin Lévesque. À présent Jimmy, on va passer à une question pour vous, écoutez bien, c'est celle que nous a laissée Alexandre, on l'écoute.
Voilà, j'ai un souci, j'étais 2 ans et demi au chômage. Au mois d'août, j'ai retrouvé un travail de chauffeur, donc je tiens souvent le volant, j'ai des journées de 12-13 heures, et j'ai commencé à avoir mal aux mains, aux doigts et aux poignets, et depuis ce temps-là, j'ai toujours mal, et c'est un peu des fourmillements aux doigts, aux poignets, des douleurs quand je suis en tension sur le volant, et je sais pas du tout ce qui se passe, et ça m'inquiète beaucoup. Merci de votre réponse, au revoir.
Alors Jimmy, ce que décrit Alexandre, ces douleurs donc dans les doigts, les mains, les poignets, quand il est au volant, donc c'est son métier, il est en tension de longs moments, de longues heures, il dit de plus de 12 heures par jour parfois, ça ne serait pas ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques peut-être, hein, bien que bon, évidemment, oui. On ne peut pas faire de consultation à la radio. Mais
on prend peu de risques en disant voilà. Ça, parce que c'est vrai que par définition, ces troubles musculo-squelettiques sont définis par des symptômes et des douleurs qu'on va avoir liées à des problématiques de gestes répétés, qu'on va faire quotidiennement, sur de longs moments, d'y conduire 12 à 13 heures par jour. Et le problème, c'est que les tissus qui vont être autour des articulations vont être sollicités au-delà de leur capacité d'adaptation. Et donc, vous allez avoir les muscles, les tendons, les cartilages, les nerfs qui vont s'endommager, provoquer de l'inflammation. Et le premier symptôme qu'ils peuvent avoir, c'est des tendinites. Et là, ce qui est décrit, à mon sens, c'est deux choses. La tendinite, certainement au niveau du poignet. Et puis peut-être ce qu'on appelle un syndrome du canal carpien, c'est-à-dire oui. De l'œdème qui va se créer autour des nerfs, qui va faire qu'on va avoir les doigts engourdis. Et c'est une problématique qui est extrêmement fréquente chez les chauffeurs de bus, de poids lourds, ceux qui vont livrer, mais aussi les taxis. Ils vont souffrir au niveau du dos, des poignets, mais aussi du cou.
Et canal carpien, aussi... je crois que c'est aussi les couturières qui ont ce genre
exactement,
de problème.
Exactement, ouais. Des mouvements répétés, stéréotypés, qui vont mettre à contribution une articulation qui n'est pas faite pour ça.
Est-ce que c'est fréquent ce type de douleur dans les métiers où on fait finalement, vous en avez décrit quelques-uns, ces gestes très répétitifs, là c'est là, mais j'imagine que quand on travaille dans une usine et qu'on fait un geste le même tout le temps, ça peut être, j'en sais rien, une flexion devant, donc ça va être la nuque, enfin, est-ce que c'est très fréquent les TMS dans la population ?
C'est 8 millions de journées d'arrêt maladie par an en France.
Énorme.
C'est énorme. Et c'est la première cause de maladie professionnelle. Et si on s'intéresse aux chauffeurs poids lourds, les troubles musculo-squelettiques vont entraîner plus de maladies professionnelles que les accidents de la route. Ça veut dire qu'à mesure que le temps passe, on va en avoir de plus en plus, d'autant plus qu'on est dans une société de consommation, on va avoir de plus en plus de livraisons, de plus en plus de livreurs. Et donc l'évolution va être exponentielle en termes de fréquence de maladies.
Alors bon, on va essayer quand même de donner quelques conseils peut-être à Alexandre. D'abord, au quotidien, il travaille, hein, c'est son travail aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des conseils à lui donner qu'on peut lui dire de faire, parce que bon, l'idée, ce n'est pas de lâcher le volant, évidemment, même s'il a mal. Qu'est-ce qu'il pourrait faire déjà pour se soulager ?
On a identifié certains facteurs de risque d'avoir ces troubles musculo-squelettiques, notamment aux membres supérieurs, au niveau des poignets et des mains. Le premier, c'est travailler en horaire décalé. On sait que ça donne plus de troubles. Le fait d'être titulaire de sa propre tournée, eh bien, on se met plus de pression et donc on a plus de symptômes. Et plus on est ancien dans la boîte, et plus on a des troubles. Et à l'inverse, on a des facteurs protecteurs. Le fait d'avoir une boîte auto-automatique, eh bien, ça peut protéger de faire des pauses. Et puis derrière, ce qu'on peut proposer, c'est de consulter un ergothérapeute pour adapter sa position au niveau du siège. Parce que sûrement que ses épaules sont mal positionnées, le siège doit être trop en avant.
Oui, en se positionnant mieux, il aurait moins mal aux mains peut-être.
Ergothérapeute, médecine du travail qui peut aussi proposer des aménagements d'horaire de poste si jamais il n'arrive plus à travailler.
Et évidemment, des médicaments peut-être s'il y a des trop de douleurs. Enfin, j'imagine, voir un médecin. Voilà.
Kiné, mais la prévention, c'est d'éviter d'en arriver là.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour ces précisions très intéressantes. Si vous aussi, comme Alexandre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Noémie Schlossenberg. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chirurgien dentiste, plus précisément pédodontiste dans les Hauts-de-Seine. Le pédodontiste, hein, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le spécialiste des dents des enfants. Et donc, on va parler de ces petites quenottes des enfants cet après-midi, parce qu'il y a vraiment des progrès à faire. Vous qui voyez que ça, des dents d'enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants en consultation avec des dents cariées, des dents délabrées en France ? Est-ce que c'est vraiment un gros problème encore aujourd'hui ?
Oui, on en voit encore énormément. Alors, nous, c'est normal qu'on en voit beaucoup, les pédodontistes, puisque forcément, déjà, on a un biais de sélection. Mais il y a énormément d'enfants qui en ont encore et qui en ont beaucoup. C'est-à-dire que la quantité de caries est concentrée sur un enfant en particulier. On a des enfants qui n'en ont pas du tout et des enfants qui ont la bouche pleine de caries.
Et c'est forcément des enfants qui n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire ?
Ah oui, forcément. C'est forcément. Alors il y a évidemment, comme pour tout, une différence individuelle entre la position éventuellement des dents. Il y a une question d'hérédité. Mais globalement, c'est quand même un problème d'hygiène et un problème d'alimentation.
Alors ça on le sait, les caries chez les enfants, ça peut arriver, mais est-ce que ça peut être si grave? Parce que dans la tête des gens, bah une carie, au pire, on la traite.
On dit une petite carie.
C'est pas très grave. Est-ce que vous avez le souvenir d'un patient, d'un enfant avec des caries très graves et qui ont pu finalement le faire vraiment souffrir et engendrer des vrais problèmes?
Ah oui, tout à fait. Et quand on voit des enfants avec des caries très graves, d'ailleurs, ils mangent très mal, ils sont pas bien, ils sont fatigués, ils dorment pas bien. Et à partir du moment où on a soigné les caries, on a réparé les dents.
C'est des bouches qui ressemblent à quoi? Parce que bon, en radio, c'est difficile d'expliquer. Je vous invite à aller regarder sur internet. Il y a des bouches d'enfants de 2 ans avec des morceaux de dents entiers qui manquent.
C'est ça. On peut avoir les incisives qui sont complètement à ras, on les voit plus du tout.
Complètement rongées par la carie.
Ah oui, complètement. Oui, c'est assez violent quand même.
Alors justement, on va essayer de faire en sorte d'éviter d'en arriver là et donner plein de petits conseils. Mais pour reprendre du début, on n'en parle jamais, mais une dent, c'est formé de quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une dent ?
Alors une dent, c'est formé de plusieurs tissus. Donc c'est un organe qui est vivant, en fait. Donc à l'intérieur, il y a une pulpe. Dans la pulpe, il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs. Donc c'est ça, pour ça qui fait que quelquefois on a mal aux dents. Autour de tout ça, il y a la dentine, c'est un tissu qui est dur. Et autour de tout ça, on a l'émail qui est le tissu le plus dur et qui sert de coque protectrice à la dent.
C'est quoi qui est blanc dans tout ça ? C'est l'émail ou c'est ce qu'il y a en dessous ?
La dentine aussi est blanc. C'est blanc, mais c'est pas tout à fait le même blanc.
Vous avez dit la dent c'est vivant. Alors on a compris à l'intérieur il y a la pulpe, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la dent finalement c'est un truc dur, inerte dans notre bouche. Non, elle est vraiment non seulement vivante, mais en lien avec tout notre organisme.
Ah oui, tout à fait. Alors sur les dents temporaires, il y a pas eu vraiment d'études de choses sorties, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour les dents permanentes, oui, ça joue même sur la santé générale des gens.
Donc les bactéries, toutes les petites de choses qui vont fourmiller dans la bouche si on n'a pas une bonne hygiène, ça peut aller dans le corps, quoi. C'est ça, vraiment aussi.
Ah oui, ça peut. Oui,
même
bien
si
sûr,
on a tous envie d'avoir des bonnes dents, mais il peut y avoir un impact global, quoi.
Oui,
c'est
oui
ça,
tout à fait. Bah, on a même vu aussi que, par exemple, les sportifs avaient des meilleurs résultats sportifs si jamais ils avaient une bonne hygiène dentaire, ils avaient des bonnes dents et des dents bien alignées.
Et si on regarde la forme des dents, est-ce qu'on peut prédire leur fonction? Parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas toutes la même forme. Si on prend les canines pointues, à quoi ça sert d'ailleurs?
Il y en a qui les ont plus ou moins pointues. Il y en a des dents de vampire, d'autres...
Alors, déjà, les enfants, à bout d'un moment, elles s'usent aussi. Donc, quand ils sont, ou alors ceux qui ont la tétine aussi, ils ont des dents très pointues. Et puis après, avec l'usure, elles deviennent plus, elles s'usent, elles deviennent plus plates. Les canines, elles dilacèrent en fait. Les incisives, elles coupent et les canines, elles dilacèrent encore plus les aliments. Et les dents du fond, que ce soit les prémolaires pour les adultes ou les molaires adultes et enfants, bah elles broient.
D'où le côté plat, gros, comme ça, comme des piliers. C'est ça. C'est nos piliers dentaires. Ouais. Alors, les dents, en moyenne, les premières, en tout cas, elles arrivent à quel âge? Parce qu'on a déjà eu des questions sur notre répondeur, justement, à ce sujet. On avait eu récemment un papa ou une maman, je ne sais plus, qui était inquiet parce que à 8 ou 10 mois, son enfant n'avait pas encore de dents. Ça sort à quel âge, les dents? En moyenne, bien sûr, parce que je me doute qu'il y a des écarts.
En moyenne, donc c'est des statistiques, hein, c'est 6 mois pour les premiers groupes de dents. C'est-à-dire qu'on a les incisives centrales, c'est celles qui sont au milieu. Après, les incisives latérales, ça c'est pour les groupes de dents, hein. Les canines et les molaires de lait chez les enfants. On a première molaire, deuxième molaire. On a un groupe de dents qui sort tous les 6 mois. D'accord. Statistiquement, c'est des moyennes. Tous les enfants ne sortent pas des dents tous les 6 mois. Il y a des enfants qui vont nous sortir 2 groupes de dents en 6 mois justement et puis ils auront toutes leurs dents en 2 ans. Des enfants qui vont attendre 1 an avant de faire sortir leur première dent. Alors il ne faut surtout pas s'inquiéter s'il y a 1 an, effectivement, les enfants n'ont pas de dents qui sont sorties.
Elles vont arriver à un moment donné.
Elles vont arriver, voilà. C'est assez rare qu'il y ait des syndromes génétiques qui sont d'ailleurs vus par le médecin, qui ont d'autres symptômes. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut ne pas avoir de dents.
D'accord, voilà, c'est très, très, très rare.
Et elle commence à tomber à partir de quel âge pour être remplacée par les dents définitives?
Ça va pas tarder chez vous, Jimmy. Attention.
C'est mauvais signe. Si je perds une dent, à mon avis, c'est compliqué. Mais jusqu'à quel âge on garde ses dents, d'ailleurs?
Alors, le moment de la chute des dents dépend du moment à laquelle la dent est arrivée. C'est-à-dire, si les enfants ont fait pousser leurs dents avant les 6 mois ou vers les 6 mois, elles vont tomber, les prochaines vont tomber.
Vous
vont
les avez arriver. Perdu tôt, hein, votre maman m'a raconté.
Bon, arriver autour de 7 ans. En gros, c'est grande section, CP, CE1, ça peut aller jusqu'au CE2 pour le premier groupe de dents, c'est-à-dire les incisives.
Les premières sorties vont être les premières tombées, en général.
Les premières tombées. Et en même temps que ça, on a aussi des dents permanentes qui arrivent sans faire tomber de dents. Donc, on a 20 dents temporaires qui vont être remplacées. Et en tout, on a 32 dents permanentes si on a ces dents de sagesse. Donc, si on ne les a pas, ben on en enlève 4, ça fait 28.
D'accord. Et à quel âge, du coup, on a tout, qu'une fois que tout est tombé, c'est...
Bah, ça dépend un petit
parce
peu aussi de l'âge.
Parce que ça retombe en 6e, hein, les dents.
Voilà, exactement.
Hein,
le deuxième groupe de dents, les canines et les molaires temporaire, elle tombe alors en fonction pareil du moment où sont arrivées les premières dents, autour du CM1, CM2 et ça peut
jusqu'à la 6e, 5e. Bon, quand ils arrivent au brevet en 3e, normalement ils ont perdu leurs dents.
Ah, il y en a certains où justement quand ils les ont eu très tard, elles peuvent tomber en 4e, 3e facilement.
Et si on pense, vous avez parlé des dents de sagesse, certains, j'ai l'impression qu'on les enlève de plus en plus. Est-ce qu'on a une mâchoire qui serait plus petite? Et on peut imaginer qu'à l'avenir, peut-être que dans 150 ou 200 ans,
de l'être humain,
fait qu'on n'aura plus de dents de sagesse parce que finalement, elles ne nous servent plus à grand-chose.
Oui, c'est tout à fait possible puisque les hommes préhistoriques, ils avaient 5 molaires. Nous, on n'en a plus que 3. La dent de sagesse, c'est une 3e molaire.
Ils avaient des grosses mâchoires alors quand même.
Bah, je pense, manger de la viande crue, c'est beaucoup plus compliqué.
Manger du
mammouth,
ça demande quand même plus.
C'est plus dur que le kebab cuit, voilà, à mon avis. Voilà, y a un truc lié à l'évolution. Donc ces dents de sagesse, finalement, peut-être qu'on va s'en passer.
En tout cas, il y a quand même beaucoup d'enfants qui en ont 3 sur 4 ou 2 sur 4.
Déjà, aujourd'hui,
plus
vos patients dans votre cabinet, vous les voyez avec des dents qui ne pousseront pas, je veux dire, dents de sagesse qui ne viendront pas.
Il y en a
pas.
Qui n'existent pas, voilà, qui ne sont plus là. Alors, on les enlève quand même assez souvent parce qu'effectivement, il n'y a plus la place.
Et vous avez l'impression qu'on les enlève plus souvent que d'habitude ou qu'on est sur le même rythme, que finalement, c'est assez stable?
Non, c'est assez stable.
Que tout le monde autour de moi se fait enlever les dents de sagesse.
Moi, je les ai enlevées. Hein,
ou qu'on finit, moi aussi, on les enlevait. Je ressemblais à hamster d'ailleurs. J'en ai beaucoup voulu au chirurgien dentiste. C'était horrible. Déjà, j'avais pas une. Oh, ma tête, c'était un peu dur au lycée, mais j'imagine. Je ressemblais à hamster, c'était horrible, les 4 en même temps.
Moi
sous
aussi,
anesthésie générale.
On fait toujours ça, Noémie.
Oui, on le fait toujours, mais maintenant on le fait plus sous anesthésie générale, on le fait en local et on ressemble un peu moins à hamster quand même.
Ouais.
Bah, j'ai une
sacré souvenir, moi aussi.
Mais moi, je suis persuadé que j'ai fait ça sous anesthésie générale à l'hôpital et que du coup, c'est un interne qui a dû s'entraîner sur moi
c'est
parce
possible.
Que forcément, voilà. Et c'est, à mon avis, c'était pas le plus doué. Ils se sont dit, bon, elle est là pour le Jimmy Mohamed, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et donc voilà, faites-le en local, le chirurgien, il vous regarde droit
mieux.
Dans les yeux.
Oui.
Et à mon avis, il fera un peu plus attention.
À la fin, on a 32 dents
permanente. Il y a des gens qui en ont plus, c'est possible.
Ça peut arriver. Ouais. Oui, ça peut arriver.
Encore en mode préhistorique.
Alors,
ouais.
En général, quand il y en a plus, on est obligé d'en enlever. Parce que là, pour le coup, déjà, s'ils ont la place pour les 32, il n'y a quand même pas la place
parce
pour tout ça.
Parce qu'elles poussent par-dessus. Voilà. C'est ça, elle ne s'est pas en plus dans la mâchoire derrière. Quoi, je veux dire.
Ça peut arriver. Si, on peut avoir des molaires en plus. Mais alors, ce qu'on peut. Souvent, les dents qui sont surnuméraires, comme on dit, ce sont en général les incisives. Mmh. Et donc, les incisives, ben, on les enlève. Parce que sinon, on a une bouche complètement asymétrique. C'est quand même pas très joli.
Très bien. Docteur Schossenberg, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Hein. Une émission sans rendez-vous, bien sûr. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, notre invité, c'est vous. Vous êtes toutes vous en studio avec nous. C'est docteur Noémie Schlussenberg. Vous êtes chirurgien-dentiste. Plus précisément, je rappelle, un pédodontiste dans les Hauts-de-Seine, donc spécialiste des dents des enfants. Et donc, on va en prendre soin à présent de la santé dentaire des plus jeunes. Et évidemment, on va parler brossage des dents parce que c'est quand même la base. Tout commence par là. D'abord, un enfant qui apprend les bons gestes dès le plus jeune âge et qui les appliquerait bien hein, toute sa vie dans le monde idéal là, des bisounours, voyez. On peut garantir du coup qu'il n'aura jamais de soucis dentaires ou de caries, ou c'est quand même pas tout à fait sûr?
Non, peut-être pas quand même. Mais ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui aura l'habitude de brosser ses dents, qui a l'habitude d'avoir une hygiène correcte, aura quand même moins de risques d'avoir des caries.
Mais on a tendance à gronder les enfants qui ont des caries, mais il faudrait gronder les parents, parce qu'un enfant qui a des caries, c'est un parent qui a mal fait son travail.
Vos enfants, ils en ont eu quelques-unes.
Mais oui, mais exactement, c'est pour ça que je dis ça.
Va falloir vous gronder, je crois.
Je crois que les vôtres aussi,
oui,
Mélanie.
Donc,
avant de me jeter la pierre, on balaye
juste devant, 5 une fois, donc c'est pas énorme. Oui.
Non, mais du coup, c'est la faute de nous, parents.
Je suis d'accord.
Donc c'est pas la faute des enfants, on a un cri sur les enfants.
Noémie nous a grondé enfin.
Ouais. Non mais c'est souvent ce qu'on dit quand les parents disent aux enfants mais tu vois faut arrêter de manger des bonbons, la première chose qu'on leur dit on dit mais qui achète les bonbons? Et voilà, et ben le silence après est éloquent. Donc
faut dire les choses, avoir une carie chez un enfant c'est aussi grave qu'une carie chez un adulte. On peut pas négliger une carie.
Bon, c'est pas
prétexte.
Mortel non plus. Hein,
non, mais
c'est grave.
Oui, mais
ouais. C'est sérieux.
Alors, c'est sérieux. Voilà. Une carie même sur une dent de lait, bah, ça se traite, ça se prévient, ça se soigne.
Parce qu'il y a des parents qui disent bon, ça va tomber. Hein.
Il n'y a pas que des parents d'ailleurs, il y a des professionnels aussi des fois qui disent non, mais c'est sur une dent de lait, on ne va pas les soigner. Donc si, il faut la soigner. Si on ne la soigne pas, ça dégénère, ça finit en abcès, il faut enlever la dent. Enfin,
ça peut toucher la dent définitive qui est en train de se former, le bourgeon dentaire derrière
ça
ou pas?
Peut toucher effectivement en fonction du moment où il y a l'abcès, c'est-à-dire que les dents permanentes se forment à une chronologie aussi particulière. Et si au moment où la dent est en train de se fabriquer, on a un abcès et on a des abcès même à répétition, on peut avoir des taches en fait sur les dents, on a des anomalies de fabrication, des anomalies de structure.
C'est dommage d'abîmer les suivantes.
Et c'est dommage, voilà.
Mmh, maintenant, c'est celle-là pas... toute la vie pour le coup. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement.
Noémie, une carie précisément, c'est quoi d'ailleurs? Parce qu'on voit tous le petit point noir ou la dent un peu grignotée, mais finalement, il se passe quoi dedans? Qu'est-ce que c'est physiologiquement une carie?
Alors la carie, au tout début, c'est l'émail qui est donc un tissu dur qui se déminéralise, donc qui devient un petit peu blanc crayeux. On le voit quelquefois au tout début. Ce stade-là, on peut arriver à le... C'est un stade qui est réversible. Ouais. Voilà, si on fait attention avec un certain temps, ça peut marcher. On peut arrêter la carie, stopper la carie. Si on n'y arrive pas, parce qu'il y a encore un mauvais brossage, beaucoup de sucre fréquent, des sucres fréquents aussi, ça finit par se creuser. C'est-à-dire que les acides des bactéries, qui sont les bactéries cariogènes, donc qui font les caries, finissent par creuser cette dent et ça la rend tout mou. En fait, c'est vraiment tout...
Et pourquoi ça devient tout noir?
Alors, quand elles sont toutes noires, ça veut dire que les caries sont arrêtées. Donc là, nous, dentistes, on est contents quand on voit que la dent est noire.
Dents, vous avez des chicots de sorcière, voilà. C'est super.
On n'aime pas quand elles sont un peu jaunes, marron. Oui. Ça, on n'aime pas parce que ça veut dire que la carie est active. Ça veut dire que tout ce qui fait que la carie est là, est encore là. C'est-à-dire que quand les parents nous disent « oui, non mais c'est bon, il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus rien », en fait, on sait que ce n'est pas encore le cas. Tandis que quand c'est noir,
vous
c'est arrêté.
Vous avez dépisté les parents menteurs, en fait. C'est ça qui est drôle aussi.
Voilà.
Non, mais c'est intéressant. C'est... Non, mais...
On ne peut pas la faire à la pédodentiste. Je vous le dis, Jimmy.
Ah, non, mais c'est
pas
vrai. Non, mais c'est des choses de base. On est tous devenus des champions du Covid, mais sur les caries, on ne touche pas une bille. Alors, c'est un truc qui va nous persister, qui va nous accompagner toute la vie. Ouais. Alors, donc, ça passe par la prévention, se brosser les dents. Mais à partir de quel âge on brosse les dents d'un enfant?
Dès qu'il y a une dent. Dès qu'il y a une dent, on peut commencer à brosser.
Un bébé de 8 mois,
j'ai jamais brossé les dents des bébés. Mais bon, c'est juste
après,
c'est pas
quand
bien,
c'est quand c'est que les incisives, c'est juste une histoire de leur montrer, mettre quelque chose dans la bouche. En plus, ils sont contents parce que ça. Oui, ou les petites brosses à dents en caoutchouc, les trucs qui frottent un petit peu. Et du coup, ils sont contents parce qu'ils les croquent au fond quand il y a les dents qui sortent. Après, dès qu'il y a les molaires, ça vaut le coup de vraiment, une fois le soir, passer une brosse à dents, juste tremper dans de l'eau, frotter un petit peu. Pas besoin de mettre de dentifrice tout de suite. On attend quand même que l'enfant ait entre 18 18 mois et 2 ans en fonction du nombre de dents qu'il a. Et on en met qu'un tout petit peu. Mais dès qu'il y a des dents, on brosse, on frotte, l'enfant il est
déjà
habitué.
Déjà le côté mécanique de la brosse, ça va nettoyer.
Ça nettoie. Après, un enfant normalement n'est pas censé manger en dehors des repas. Et à partir du moment où il mange 4 fois par jour.
Il le fait d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Du coup, normalement, il n'y a pas de risque.
Je vous ai raconté ma fille avant le dîner hier, hein, c'était super.
Voilà.
Madeleine au chocolat, tout ça.
Ah oui, bah, très bien. Cachette, ça, c'était
bien.
Parfait.
C'est bien.
Super.
Hein,
voilà.
Alors, jusqu'à 2-3 ans, on va dire, on leur fait nous, hein, c'est-à-dire on leur brosse les dents nous-mêmes, parce que c'est pas difficile d'acquérir le geste, le bon geste à cet âge-là. Mais du coup, les petits, justement, jusqu'à 2-3 ans, on leur laisse faire avec la petite brosse un peu n'importe quoi, c'est pas très grave. Enfin, l'important, c'est que la brosse brosse un peu partout, quoi.
Alors, on peut leur faire faire, mais il faut quand même qu'il y ait un adulte qui passe derrière. Il faut que l'adulte continue à brosser derrière jusqu'à ce que l'enfant ait 5-6 ans, jusqu'à ce qu'il soit à peu près...
Ah oui, jusqu'à 5-6 ans, on brosse nous-mêmes. Et après, voilà. Alors, on leur apprend, je crois que la méthode n'est pas la même que la nôtre. Hein, vers 3-4 ans, ils doivent les brosser, mais ils font quoi, en fait?
Bah alors, ils font un peu ce qu'ils peuvent à 3-4 ans, parce qu'ils n'ont pas la motricité fine qui fait qu'ils arrivent vraiment à brosser partout. Donc, c'est pour ça que c'est l'adulte qui doit brosser. À cet âge-là, le brossage est horizontal. On se fait un peu comme on peut, on frotte partout. On compte. Alors, minimum 2 minutes, 3 minutes si on y arrive pour les petits, parce que c'est très long,
c'est 3 minutes.
Ouais. Voilà. Donc, quand il n'y a encore que 20 dents de lait, 2 minutes, si c'est bien fait, ça peut suffire. Surtout si en plus l'adulte repasse un petit peu derrière. Mmh. Après, à partir de 6 ans, ils sont tout à fait capables de le faire. Après, ça dépend des enfants.
Mmh. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode que leur montrer des dents toutes noires, des chicots tout abîmés, pour leur dire voilà, si tu ne brosses pas les dents, voilà ce qui se passera.
Ça va finir comme ça.
Parce que c'est pas une très bonne méthode éducative, mais est-ce que ça peut les marquer? Parce que parfois, ils ne sont pas très motivés pour se brosser les dents. Ils disent bon, je le fais, mais bon, je vais bien, j'ai pas mal, pourquoi me brosser les dents? On a du mal à parfois faire passer le message.
Bah, ça dépend des enfants. Il y a des enfants pour qui ça peut fonctionner, mais globalement...
Partir en courant à la salle de bain...
En général, ça marche pas. En tout cas, ce qui ne marche pas, c'est de dire aux enfants, tu vas avoir mal, si jamais tu brosses pas tes dents, tu vas avoir des caries, tu vas aller chez le dentiste, ça va te faire mal. Alors ça, c'est la pire des choses. Si on peut éviter de faire ça, c'est bien, parce que si jamais il y a des caries, bah, de toute façon, il y en aura, et le dentiste, il va faire ce qu'il faut, et ça va bien se passer. Et si on a raté la prévention, bah, le dentiste va faire la suite de la prévention. Mais ça ne marche pas toujours.
Comment on fait à 4-5 ans? Vous disiez, donc là, bon, le brossage, il peut être horizontal, on met un petit peu dentifrice, etc. On passe éventuellement derrière si besoin. Mais comment on les motive pour que ça dure assez longtemps? Parce que déjà, parfois, on a du mal à les convaincre de ranger leur chambre. Alors, pour les convaincre de bien se brosser les dents, c'est que vous avez des petites astuces de pédodontiste?
Des petites chansons.
Ouais.
Oui, petites chansons.
Associées au brossage,
compte,
quoi,
ou alors on chante. Alors, ce qui est bien, c'est de chanter, mais de faire A-A-A en même temps, pour que l'enfant ait la bouche ouverte. Parce que si on fait les paroles en même temps, il va faire des grimaces, on ne va pas y arriver. Ce qui peut être pas mal, c'est que l'enfant ait sa brosse à dents dans une main, et le papa ou la maman a la brosse à dents dans l'autre main. Comme ça, il peut brosser, l'enfant, il est occupé, il a sa brosse à dents dans la main, il est content. Et pendant ce temps, les parents brossent. Un petit chronomètre aussi.
Ça, c'est des petites choses qui fonctionnent.
Ouais.
Est-ce que le prix d'une brosse à dents a une importance? Parce qu'il y en a des vraiment pas chers, des marques repères, des trucs pas chers.
Oui, dans le supermarché, très abordable.
Et parfois, ça va du simple au double, au triple, voire au quadruple.
Par rapport à la pharmacie.
Mais exactement, est-ce que le prix a un impact?
Pas forcément. Ce qu'il faut, c'est que la brosse à dents soit assez simple, petite pour les enfants. Simple, c'est-à-dire tous les poils de la même taille, pas avec des poils dans tous les sens en disant bah, ceux-là ils vont brosser dans un côté, l'autre dans l'autre sens, ça c'est vraiment que du marketing. Mais le prix, non, n'a
aucune importance. Brosse à dents électrique pour les petits, c'est pas la peine aussi?
Alors la brosse à dents électrique, à partir de 5-6 ans, ça peut commencer à être intéressant, parce que du coup ils gagnent en autonomie et là on peut les laisser un petit peu plus brosser tout seul et on a moins besoin de passer derrière. Alors il faut quand même surveiller de toute façon si on veut pas qu'il y ait de soucis derrière, mais on a moins besoin de brosser à leur place.
D'accord, et c'est plus efficace alors peut-être?
C'est un petit peu plus efficace. Si c'est bien utilisé, c'est plus efficace.
Très bien. Docteur Schoesslenberg, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Oui, je suis très fière de moi, j'ai très bien prononcé le disque, hein, Jimmy, cette fois.
Oh là, je ne suis pas sûre que le transfert dans une autre radio soit pour tout de suite le nouveau musical, mais c'est un autre débat.
Bon, elle est toujours avec nous en studio, c'est le docteur Noémie Schlussenberg. Vous êtes pédodontiste dans les Hauts-de-Seine, donc spécialiste des dents des enfants, je le répète, c'est notre sujet du jour, justement. Il y a quelques minutes, vous nous avez donné les bonnes méthodes, on va dire, de brossage des dents des petits, un peu en fonction de l'âge, vers 7-8 ans finalement, enfin 6-7 ans, ils vont commencer à brosser comme nous, avec le rouleau finalement, hein, c'est ça. C'est la technique de bas, en gros plus verticale du tout, on passe du haut des dents vers le bas des dents et peut-être vous allez l'expliquer mieux que moi,
en fait c'est la technique du rouleau. Moi je dis toujours, on pense au rouleau qui nettoie les voitures. Ouais. Donc on se met sur la gencive, donc le rouge, du rouge vers le blanc. Donc en haut c'est du haut vers le bas et en bas c'est du bas vers le haut.
C'était bien, bien expliqué, Jimmy, non ?
Bah, chacun son métier, hein, je pense qu'il n'y a pas de secret. Dans ce studio, il y a quelqu'un qui nous accompagne depuis tout à l'heure, qui est très silencieux, très silencieuse, c'est votre fille, c'est ça ? Elle a quel âge ? Est-ce que quand on est dentiste, on est tyrannique avec les dents de sa fille ? Ou est-ce qu'on est aussi parfois...
Petite question perso, au passage.
On est tyrannique, oui. Oui, oui, on est pénible.
Elle n'a pas de caries, j'espère.
Non.
Bon, le fluor, c'est une question importante. Le fluor, il y a beaucoup de parents qui se posent la question. Moi, nous, quand on était enfants, avec Jimmy, on nous donnait des petits suppléments de fluor par comprimé. Ça ne se fait plus du tout. Enfin, moi, en tout cas, mon dentiste ne me l'a jamais conseillé pour mes enfants. Pourquoi ?
Car on vieillit, Mélanie, c'est un autre temps.
C'était avant la guerre.
Tous ceux qui ont ces petits comprimés, à mon avis.
C'est qu'on n'est pas plus jeunes.
C'est le début de la fin.
C'est ça.
Vous les avez eu aussi, Noémie ?
Moi, je les ai eu aussi.
Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez dire en tant que vieille dentiste ?
Alors, le fluor comme ça, en supplémentation systémique, on appelle ça, n'est plus justifié. Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on veut, c'est voir les enfants petits, être sûr qu'il n'y ait pas de caries cachées, brosser les dents et éviter les surdosages de fluor. Parce que alors, les graves surdosages de fluor sont très très rares, il faut des grosses doses, mais on peut avoir des problèmes avec...
Fluorose.
Voilà,
des
exactement.
Taches sur les dents, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, ça peut faire juste des petites taches blanches qui sont pas un petit peu inesthétiques, mais qui finalement se voient pas trop, jusqu'à carrément des, justement comme des caries un peu jaunes, marron. Donc, on a supprimé cette supplémentation-là, sauf pour certains enfants avec un risque carieux élevé.
D'accord.
Oui, c'est qu'on ne donne plus cette supplémentation, mais malgré tout, chez certains enfants, vous mettez du fluor sur les dents directement.
Ouais. C'est le vernis, moi, on a fait ça. Ouais.
Une forme de pâte. Ouais. Donc, ça réduit les caries chez des enfants qui auraient un peu de caries de temps en temps.
Oui, parce qu'en fait, donc un des rôles du fluor, en fait, c'est de premier rôle, c'est de renforcer les dents, c'est-à-dire qu'il rentre dans la structure de l'émail et il devient à part entière dans l'émail et il le renforce, c'est-à-dire que l'émail sans fluor est plus fragile que l'émail avec du fluor. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il stoppe les caries. Il empêche le développement des bactéries qui font les caries. Plus, il redurcit, justement, on a parlé tout à l'heure des déminéralisations de l'émail, et il redurcit ces zones-là. Donc c'est pour ça en fait qu'on utilise le fluor, et chez les enfants qui ont des caries, on pose du fluor nous-mêmes en vernis, en petit gel, en petite pâte, on a plusieurs manières différentes de le faire. Deux fois par an chez des enfants qui sont polycarieux, ça peut se faire un petit peu plus souvent à chaque fois qu'on soigne des caries, parce que ça aide à limiter la propagation de cette carie.
Autre conseil qu'on peut donner surtout aux adultes, moi je l'ai entendu chez les adultes, c'est d'utiliser le fil dentaire, les brossettes pour les espaces entre les dents. Est-ce que chez les enfants c'est intéressant aussi ou est-ce qu'ils sont trop petits ? Non,
c'est... Oui, tout à fait. Parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles on peut avoir des caries, c'est quand on a les dents très serrées. Donc on peut avoir des enfants qui brossent bien leurs dents, qui ne grignotent pas spécialement, mais qui peuvent avoir quand même des dents très serrées. Et à ces endroits-là, le fil dentaire va nous aider parce qu'on va éviter d'avoir des caries qui se développent à cet endroit-là.
Entre les dents, celles-là sont pernicieuses, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a une technique particulière pour utiliser le fil dentaire ? On peut faire ça, je ne vais pas dire à l'arrache, mais comme le soir avant de dormir, il n'y a pas besoin de dextérité particulière.
Oui, c'est un peu comme on peut. Il faut prendre un gros bout de fil dentaire, on l'enroule entre les deux index et on le passe doucement entre les deux dents. Il ne faut pas passer
on
trop fort.
On y va sur toutes les dents du devant.
Alors, les enfants, non, on ne peut faire que sur les dents du fond. On peut faire que entre les deux molaires. Ça suffit largement, les dents de devant. Alors, certains enfants, les canines, justement, dont on parlait tout à l'heure, peuvent être très serrées aussi. On peut aller jusqu'aux canines.
D'accord.
Mais sinon, ce n'est pas utile sur les autres.
Alors, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut brosser ses dents, ça on l'a vu, éventuellement passer donc du fil dentaire, mais aussi prendre l'habitude, comme pour nous, finalement, d'aller voir le dentiste régulièrement. Dans l'idéal, si tout va bien, à quel âge on vous les amène pour la première fois ? Bon, pas à 6 mois quand même, dès qu'ils ont des dents, il ne faut pas exagérer.
C'est
ça. Ça non plus, je ne l'ai pas fait. Hein. Non.
Alors, la Sécu a mis en place un premier bilan qui est pris en charge, qui a 3 ans. Donc, 3 ans,
c'est
en général, c'est un bon âge. Surtout que 3 ans, c'est un âge très sympa.
C'est le MT Dents, qui est un très bon programme d'ailleurs. Voilà. 3, 6, 9, et je crois que ça va même plus loin maintenant.
12, 15 et 18.
C'est ça, tous les 3 ans au moins.
Voilà. Après, quelquefois, on voit les enfants quand ils sont plus petits. Si jamais on sait que c'est des fratries avec des enfants qui sont polycarieux, on demande à voir les petits pour justement mettre les applications de fluor s'il y a besoin.
Oui, parce qu'il ne faut pas attendre de voir une carie pour venir vous voir, car certaines caries ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous, on attend souvent de voir cette petite tache noirâtre ou marron, mais il peut y en avoir avant même...
Vous qu'elle
même
nous a expliqué que quand c'était noir, c'est que c'était fini. Elle était finie, la carie, donc c'est trop tard.
C'est qu'on est en train de retard.
C'est ça.
Alors, on va les voir quand elles sont toutes petites, chez les tout-petits, justement. Tout-petits, c'est les parents qui vont les voir et qui vont nous dire « voilà, j'ai vu une petite tache, j'ai vu un petit trou. » Et là, c'est tout-petit, donc c'est très bien, ils viennent à ce moment-là. Mais effectivement, quand les enfants sont plus grands, les caries qu'on ne voit pas, c'est celles qui sont entre les dents. et qu'on voit en faisant les radios. Et là, nous, même nous, quelquefois, on se fait avoir, on pense qu'il n'y a pas de caries, on fait des radios, et là, hop, on en voit quand même quelques-unes des petites.
Ah, c'est pour ça que les dentistes font beaucoup de radios, ils adorent ça, on se demande souvent, mais bon, j'ai fait des radios il n'y a pas très longtemps, malgré tout, c'est pour voir des petites caries non visibles, même par l'œil expert du dentiste.
C'est ça.
On va parler d'un autre problème qui peut arriver aux petits ou un peu plus grands d'ailleurs, un choc dentaire, une dent cassée, ça peut arriver dans la cour de l'école, en faisant de la trottinette. Là, on fait quoi? Donc on récupère son enfant, souvent quand il se casse les dents, l'école appelle, on le sait assez vite, on le récupère, elle peut être cassée, juste un petit morceau, expulsée de la bouche. Est-ce qu'il faut vous voir tout de suite, dans l'heure, appeler en urgence? Parce que bon, on sait que les dentistes, vous avez des créneaux compliqués, parfois des rendez-vous, des délais de rendez-vous assez lents. Est-ce que pour des urgences comme ça, vous vous débrouillez toujours ou comment ça se passe?
Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant. D'accord. Déjà. Une dent permanente, c'est une urgence de toute façon, sauf si c'est un tout petit bout qui s'est cassé, mais si une dent permanente par exemple est expulsée, parce que ça c'est vraiment la grosse urgence, il faut voir
donc là,
un dentiste.
Donc on parle d'enfants un peu plus grands, hein, au moins 6 ans quoi, c'est
voilà,
ça.
6-7 ans.
Et si un petit bout de chou de 3 ans se casse
alors,
les dents
petits,
devant, on fait
alors,
quoi?
Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a à faire, ça dépend de comment est l'enfant, ça dépend de s'il mange, s'il mange pas, si la dent bouge beaucoup, s'il saigne beaucoup, s'il continue à saigner et que les dents bougent beaucoup et que c'est compliqué. Quelquefois, c'est hôpital pour être sûr qu'il n'y ait pas de fracture osseuse. C'est assez rare. Mais sinon, en général, c'est le dentiste qui a besoin de faire une radio, de voir un petit peu ce qui se passe et de donner des conseils aux parents de savoir si, par exemple, on doit extraire la dent.
Donc, dans les 24-48 heures, c'est bien quand même.
Il faut au moins appeler. Il faut au moins avoir le secrétariat d'un dentiste au téléphone.
Et si jamais la dent est totalement expulsée, donc il perd sa dent, comment est-ce qu'on la conserve? Est-ce qu'on la met dans un liquide particulier? Est-ce qu'il faut nettoyer d'ailleurs une dent qui vient de tomber?
Oui, parce que si elle tombe dans la terre, qu'il y en a partout, est-ce qu'on la nettoie? On vous la portez, vous ferez le nettoyage.
Dent temporaire, vous la gardez, vous la mettez sous l'oreiller.
Ah oui,
pour la petite souris.
Pour la petite souris, ça sert à rien, vous n'en avez pas besoin, d'accord. Évidemment, la petite souris.
Voilà, dent permanente par contre, alors surtout non, on ne la nettoie pas, on la met dans...
Pourquoi?
Parce que si on la nettoie, en fait, alors c'est le dentiste qui va le faire lui-même, mais si on la nettoie, on enlève tout le ligament qui est autour et qui
la
va
chair
nous...
qui peut être un peu accrochée.
Voilà, et qui va servir quand on va la remettre en place à réaccrocher la dent.
Jamais nettoyer sous l'eau, la
jamais
dent
nettoyer.
Tomber, d'accord.
Par contre, on la met dans l'eau, on la met dans du lait, on la met dans un petit gobelet avec la salive de l'enfant.
On fait cracher.
Il faut qu'elle soit, voilà, on fait cracher, ça c'est l'idéal, c'est la salive. Il faut qu'elle soit humide et là par contre il faut voir un dentiste dans l'heure.
Humide mais on la met pas dans l'eau, on met pas dans un verre d'eau.
On peut mettre, si jamais on a rien d'autre, si on peut mettre dans de l'eau. Mais alors c'est mieux sérum fille, mais quelquefois il y a pas de sérum fille ou voilà. La salive c'est très bien, on prend un gobelet, on crache dans le gobelet et puis.
Mais si on n'a pas retrouvé la dent, on fait quoi? Parce que parfois ça dépend où ça arrive.
Alors là, Bah là s'il n'a pas retrouvé la dent, le dentiste on peut pas la remettre. Alors non, on est sympa quand même avec les petits.
Quelque chose quand même.
Oui. Pas, ça prend un peu de temps, mais oui.
Tout est possible, même chez les enfants. Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Dr Schossenberg, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on sait tout ce qu'il faut faire pour donner donc, aux enfants le meilleur capital dentaire pour la suite. On a un petit peu moins peur, je trouve, des dentistes, grâce au Dr Schossenberg.
Oui,
même.
On est rassurés, on pourra amener nos enfants de façon très sereine, parce que vous êtes très pédagogue avec les enfants, c'est pas mal.
J'aurais bien aimé vous avoir quand j'étais petite. Bon, allez. Merci beaucoup, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé et Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, on a décidé de s'interroger, enfin non, moi j'ai rien décidé, c'est Jimmy, de s'interroger sur l'amour, l'attachement, la vie de couple du point de vue scientifique. Savez-vous par exemple si c'est vrai que l'amour rend aveugle? Pourrait-on expliquer l'infidélité du point de vue médical? Notre reporter Valentin Piovesa a été vous questionner sur tous ces sujets. On écoute son micro-trottoir.
Est-ce que l'amour rend aveugle? Parfois oui, quand il est passionnel, mais je ne crois pas qu'il rende aveugle.
Oh, je pense qu'ils sont plus infidèles maintenant. Il y a trop d'occasions avec les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ouais.
Ça nous fait faire des trucs en temps normal, on ne les fait pas. Mais par amour, on les fait.
La Saint-Valentin, c'est censé être tous les jours si on aime vraiment quelqu'un.
La fidélité sur 40 ans de vie, ce n'est pas évident. L'infidélité sur les premiers temps, là, est plus problématique.
Je trouve qu'il n'y a plus vraiment de fidélité dans un couple et je trouve ça assez dommage d'ailleurs, donc je préfère rester seule.
Je pense que même si on leur proposait de l'argent, ce ne serait pas possible de rendre des hommes fidèles qui étaient infidèles avant. On peut toujours essayer en tout cas.
Même si on leur proposait de l'argent, on ne pourrait pas les rendre fidèles. Bah, dis donc, il y a de l'espoir, effectivement,
c'est
dans
triste.
L'amour. C'est dommage, allez, c'est dimanche, on se met bien. Jimmy, c'est vous qui avez motivé cette chronique, car vous êtes finalement un grand sensible, un accro de l'amour même, il faut le dire. C'est ça.
Oui, alors c'est surtout sur le côté médical, parce que malgré tout, certaines choses peuvent s'expliquer. Est-ce que l'amour rend aveugle, le coup de foudre ou même l'infidélité, il y aurait peut-être des petites notions scientifiques derrière tout ça.
D'accord, alors on va commencer par le coup de foudre, parce que moi, ça m'intéresse et je me suis toujours posé la question. Je suis sûre que nos auditeurs, c'est la même chose. Est-ce que ça existe vraiment?
Alors, oui et non. Non, ça n'existe pas, puisque finalement, il n'y a pas d'alchimie qui va se créer. Deux personnes ne sont pas forcément faites pour être ensemble. Mais ce qui va se passer lorsque vous avez ce coup de foudre, c'est que vous allez avoir tout simplement une attirance physique. Le coup de foudre n'est rien d'autre que ça, car vous n'avez aucune information. Et on sait qu'un regard soutenu avec une personne, en la regardant les yeux dans les yeux, peut déclencher ce coup de foudre et vous allez avoir une inondation de dopamine. Cette dopamine va susciter le désir et l'envie d'entamer une relation, et pour avoir de l'attachement, vous avez besoin d'avoir des relations intimes, pas forcément sexuelles, qui vont permettre de sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, cette dopamine et aussi des endorphines qui nous font du bien.
Alors bon, autre question très importante. Moi, je dirais presque oui à la suivante. Vous allez voir, quand on dit que l'amour rend aveugle, je crois que c'est vrai.
Et oui, et je pense que le mariage permet de retrouver la vue. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que
au bout de quelques années, effectivement.
Et oui, mais ouais. Ça s'explique scientifiquement. Alors, non pas que ça rend aveugle, mais il semblerait, quand on commence à tomber amoureux, eh bien, notre cerveau va avoir une perception différente.
Ouais, il est magnifique, il est parfait, c'est le meilleur.
Mais il est malin, ce cerveau, parce qu'il va nous permettre d'endormir certaines zones du cerveau, notamment la zone responsable
de la lucidité.
Du jugement critique.
Ah oui.
Ce jugement critique, il n'existe plus quand
c'est
on est amoureux.
Sommeil, d'accord.
Les émotions négatives n'existent plus. Il y a une formation qui va s'éteindre dans le cerveau. Et puis aussi celle de la dépression. C'est pour ça qu'on est un peu euphorique quand on est amoureux. Sauf que malheureusement, avec le temps, eh bien, ça s'estompe. Ouais. Et donc, on retrouve la vue et là, on voit tous les défauts, mais qui existaient au tout début de la relation.
Alors, on retrouve la vue, on voit tous les défauts et puis aussi, parfois, au bout d'un certain temps, ou même assez tôt, ben, il y a l'infidélité qui nous tombe dessus. Est-ce qu'il y aurait une explication médicale?
Et oui, ce serait peut-être lié à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. On s'est rendu compte que chez des campagnols, c'est des rongeurs. Le campagnol des prairies, il est très fidèle.
D'accord.
Quand il s'accouple une fois, il reste avec le compagnon durant toute sa vie.
Contrairement... Ben, c'est le zoologue, Dr Jimmy Mohamed, qui nous parle.
C'est très intéressant parce que le campagnol des montagnes, lui, il est volage. Et lui, il n'a pas d'ocytocine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné de l'ocytocine à celui qui est infidèle, et bien tout d'un coup, il devient fidèle. Et à l'inverse, le campagnol qui était très fidèle, on lui a bloqué l'ocytocine, et bien tout d'un coup, lui, il se met à être infidèle.
Bon, Jimmy, on peut avoir un petit spray d'ocytocine, là, comme ça, pour donner à tous les hommes ou les femmes.
Ça a été testé chez l'homme, et ça les rend un peu plus fidèles, notamment à distance, lorsque leur épouse est plus loin. Eh bien, il reste un peu plus fidèle. Donc, à quand le spray nasal, il y a l'infidélité.
Un business de spray d'ocytocine, alors.
Mais la seule question, c'est est-ce qu'être infidèle, c'est une maladie? C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore de traitement et de médicaments.
Très bien, mais on retiendra quand même le petit spray d'ocytocine. Je ne suis pas sûre que ça se trouve facilement. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette mise au point très intéressante et vraiment qui nous a aidé à cerner votre très belle sensibilité. Merci, Jimmy.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h et jusqu'à 16h avec cette dernière séquence de l'émission. Comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question que nous a laissée Johanna. Jimmy, vous voulez bien la lire? Pour une fois, c'est à vous.
Avec grand plaisir. J'ai remarqué que ma sœur, qui a 26 ans, a vraiment du mal à trouver l'amour. Bon, en même temps, elle peut faire flipper les hommes. Le dernier en date, au bout d'un mois de relation, elle lui a dit qu'elle voulait 4 enfants non négociables. Résultat, il l'a quittée. Et je le comprends. Comment l'aider à comprendre qu'il faut du temps?
Ah, c'est vous qui le dites, je le comprends. C'était même pas écrit dans la question, je rêve.
Pardonnez-moi, Mélanie. Pardonnez-moi. Résultat, il l'a quittée. Comment l'aider à comprendre qu'il faut du temps et des compromis en amour? Alors, Catherine, on peut le comprendre. C'est dur de trouver l'amour
au
bout d'un mois, on veut s'engager aussi vite. C'est pas un défaut, mais on peut comprendre que l'autre peut prendre peur.
Bien sûr,
au moins, elle sait ce qu'elle veut, mais ça peut être effrayant.
Voilà,
quoi.
Mais elle sait ce qu'elle veut au-delà de l'autre. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que ça, c'est son projet éminemment légitime. Sauf qu'en face, il y a un homme qui a.
Il ne sait même pas s'il veut un enfant, alors 4, je ne sais pas.
Voilà,
moi.
Lui, il a ou pas le même projet, ou il a besoin de nourrir un projet de concert et pas un projet déjà tout écrit. Ce qui, évidemment. Peut faire effectivement énormément peur. Ceci étant, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas le but? C'est-à-dire quand on arrive dans une relation et qu'on se dit « j'arrive pas à trouver l'âme sœur » et dès qu'on arrive, qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit « à propos, bon ça se passe bien entre nous, je te préviens, je veux 4 enfants et non négociables », c'est à se demander si j'ai vraiment envie ou si je crois vraiment à mon projet. Parce qu'on peut se dire que c'est une façon d'éprouver. L'homme de ma vie sera celui qui sera capable de se battre contre les dragons, à savoir mes 4 enfants que je lui propose. Mais on n'est pas obligé non plus.
On m'aurait dit ça au bout d'un mois de relation, je me serais enfuie en courant, moi aussi, je crois.
Bah, moi, j'aurais éclaté de rire. Mais enfin, c'est-à-dire, on dira tout doux ouais. De Jolly Jumper. On y va chemin faisant. Je crois que voilà, chacun à son tour... peut comprendre qu'il y a ou une part d'agressivité ou une part de provoque et que tout ça, après, ça se discute. Après, il y a peut-être non négociable. Je comprends que ce soit non négociable tes 4 enfants, mais moi, c'est non négociable, c'est 0. Auquel cas, là, ok, la messe est 10.
Edith. J'ai mis 4 enfants, vous aurez dit 4 enfants à 26 ans.
J'aurais
dit
dans la surenchère, j'aurais dit 5 enfants.
5, moins 5.
Pour voir la réaction. Parce que justement, un jour, elle va finir par quelqu'un qui va dire oui. Et c'est peut-être encore peut-être plus dangereux non, de se dire aussi rapidement, on va brûler toutes les étapes. Surtout en cette période, un peu d'incertitude. Le coronavirus redistribue les cartes de nos vies. Donc, si un jour elle tombe sur quelqu'un qui dit oui, c'est pas pour autant rassurant.
Oui, surtout que si ça se trouve, mais surtout qu'il peut lui dire oui, parce que moi, je ne veux pas non plus en avoir moins de 4. Et puis, finalement, elle a toutes les peines du monde à en faire ne serait-ce qu'un. Ce serait une grande tristesse. C'est-à-dire dire c'est non négociable, c'est même pas compter sur la réalité de la vie, de la biologie. Donc,
peut-être qu'elle est un peu fougueuse, elle a 26 ans, il faut qu'elle se calme un peu et qu'elle comprenne qu'il faut un peu du temps.
Ou elle est coincée dans des modèles d'une maman qui en a eu 4, d'une grand-mère qui en a eu 4, d'une sœur qui en a 4.
Il ne faut pas qu'elle impose ça aux jeunes garçons qu'elle rencontre. Quoi,
c'est surtout qu'en fait, on peut tous rêver que quand je serai grande, je serai ou je ferai. La réalité, c'est
que... À partir de combien de relations
ça...
on peut lui dire qu'on en veut 4
c'est que moi, j'aurais envie d'une famille nombreuse. Après, le « j'aurais envie » laisse le conditionnel des possibles. On ne peut pas diriger nos vies comme
ça. Puisqu'elle ferme la porte, elle dit que c'est non négociable. Et c'est peut-être ça qui fait peur. Parce que dire dans un projet, même au bout d'un mois, on a le droit d'espérer un idéal.
Oui, de sourire. Sur...
Avoir une maison, avoir un chien, partir en vacances, tout claquer ou avoir des enfants. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le fait d'être ferme, en revanche, on peut comprendre que là...
Ça montre ou une façon d'être très dominant de l'autre, c'est-à-dire la vie doit être comme je l'entends et point, ou alors ça raconte toutes les peurs que l'on a quant à nos incapacités. Du coup, on s'est donné une ligne de conduite extrêmement rigide. Mais moi, je trouve que ça augure de grande tristesse parce que c'est pas tant le problème de l'autre qui accepte pas, le bon numéro qui sera le bon candidat à l'aventure déjà préécrite. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'idée d'avoir écrit ce que je devrais être pour être une femme accomplie.
Il y a un côté quand même, elle sait ce qu'elle veut au moins, en tout cas.
Oui, mais si d'aventure ça ne se produisait pas, vous imaginez la douleur, parce que tout s'effondrerait. Donc je crois qu'il faut savoir...
Une fois qu'elle en aura eu un, peut-être qu'elle aura moins envie d'en avoir 4. Ça peut changer aussi, oui. Jimmy.
Honnêtement, 1, 2, 3, on commence à se dire qu'est-ce que je fais là? Alors 4, à mon avis, elle va être vaccinée. On va vite faire face à la réalité du terrain.
Vous en êtes là, Jimmy, c'est
ça. Alors je crois que je n'aurai pas 4. Je suis à deux doigts de la vasectomie pour vous dire à quel point je suis prêt à ne plus avoir d'enfants, même si je
vis
seule.
Mais ceci, c'est sans compter sur la danse du ventre de votre femme. Vous n'en savez rien. Voilà. Peut-être qu'elle vous séduira pour un quatrième.
Je vous prie de vous arrêter. L'histoire de Jimmy Mohamed ne nous intéresse pas du tout. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, pour tous ces conseils. On a compris un peu trop de rigueur. Là, il faut peut-être se détendre un peu.
C'est qu'on cherche vraiment la porte qui se claque sous son nez.
Très bien, merci. On vous dit donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est historiquement vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors ils ont fait revivre Marie-Antoinette, l'écrivain évidemment autrichien Stefan Zweig, Jacques Demy, le réalisateur, un film qu'on n'a jamais vu. Et vous avez choisi...
Sofia Coppola,
ah oui,
que vous connaissez bien. Vous connaissez son Marie-Antoinette, un petit peu discuté par les historiens, puisqu'on la voit en converse quand même dans le film. Oui,
et manger des macarons la durée qui n'existait pas. Placement de produit.
Et Sofia Coppola, dont on verra que Stéphane la connaît très très bien, puisque, n'est-ce pas, elle a loué sa maison de Paros.
C'est une histoire
que nous raconterons dans l'émission.
Vous trahissez tout, vous salissez tout.
On est dans des coulisses personnelles et tout, j'adore. Je vais rester à l'écoute, bien évidemment, comme tous les jours. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.